Maxence Fabiani, les nouvelles éditions Loubatière ont sorti il n'y a pas si longtemps que ça le guide orange du tourisme durable de la Haute-Garonne.
C'est exactement ça, oui.
Donc c'est un guide très agréable à parcourir, facile à transporter, il est rempli de bons conseils. Nous parcourons tout le département avec des visites à ne pas manquer et des adresses où se poser pour dormir, voire déguster des bons produits fermiers. À l'origine, qu'est-ce qui a poussé l'équipe à justement à publier, à écrire ce guide ?
Alors ben ça vient en fait de la vie quotidienne et de l'observation. Bon, nous n'habitons pas au centre de la métropole, nous habitons dans le Volvestre, donc un petit peu au sud de la métropole, pas tout à fait dans le grand sud du département, mais nous y vivons depuis maintenant 10 ans et nous vivons au quotidien et nous observons qu'il existe de nombreuses initiatives menées par des particuliers qui s'occupe d'hébergement, de gastronomie, enfin de restauration, ou d'artisanat, qui ouvrent leurs ateliers, qui font visiter, qui organisent énormément de choses. Alors, non pas que ça n'existe pas, je corrige de suite, non pas que ces initiatives n'existent pas dans le grand centre toulousain, simplement ces initiatives sont un peu plus noyées dans la masse d'informations qui nous sollicitent quotidiennement dans les grandes villes, et on a un peu plus tendance à les distinguer, à les remarquer quand on est à la campagne. Et donc c'est toutes ces initiatives qui sont de plus en plus nombreuses ont quelques points communs. Elles sont donc de plus en plus nombreuses, elles sont attachées, leur point commun c'est d'être en fait attachées à la relation humaine, à la relation directe entre des opérateurs qu'on va qualifier d'opérateurs touristiques, puisque c'est le sujet du guide, et leurs visiteurs, leurs clients. Alors ce sont des gens généralement curieux des autres, très attachés aux relations humaines et qui veulent non seulement faire commerce de quelque chose, donc louer une chambre ou vendre un repas ou une poterie ou autre chose, mais chez qui il y a vraiment systématiquement, toute la rencontre qu'on a pu faire nous le confirme, il y a une dimension humaine qui est très 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 importante. Et parallèlement, d'ailleurs c'est normal, parallèlement la demande pour ce genre de tourisme, qualifié maintenant de tourisme durable, parce qu'il faut bien donner un nom aux choses, et cette demande est de plus en plus importante aussi. Donc fatalement, plus de demandes, plus d'offres, et comme ça tout le monde peut trouver son content. Ce qui est singulier, je crois, dans toutes ces offres, c'est que les gens veulent offrir une relation humaine et aussi une relation unique, c'est-à-dire que ces démarches sont clairement en opposition à la standardisation de l'offre, qu'elle soit en matière de nourriture, d'hébergement, et ainsi de suite. Donc forcément, elle est très éparpillée, très visible sur un plan généralement extrêmement local, mais pas beaucoup plus. Et nous, comme notre métier est de faire des livres, qu'on fait ça du 1er janvier au 31 décembre, on s'est dit que ce serait peut-être bien de rassembler le maximum d'informations dans un livre, donc un guide, qui permettrait à ces opérateurs d'avoir un peu plus de visibilité et aux visiteurs de pouvoir trouver dans un même objet le plus possible d'informations. Je dis le plus possible parce que je suis prudent, je sais très bien que nous ne sommes pas, nous ne pouvons pas être exhaustifs, parce que le temps que prend le guide à être fabriqué, il y a des opérateurs qui cessent leur activité, d'autres qui s'ajoutent, et cela on ne les connaît pas forcément. Le temps qu'on fabrique, ça dure moins longtemps que la fabrication d'un film d'animation, mais tout de même ça prend du temps. Donc voilà. Après on a recherché un petit peu quel pouvait être le territoire pertinent de ce genre de guide. On s'est assez vite arrivé à conclure que le département était très, très probablement le bon territoire, le territoire donc pertinent. Et de fait, ce guide, c'est le premier guide, parce que nous espérons que c'est le premier, qu'il y en aura d'autres, que la collection va s'étoffer. Premier guide orange du tourisme durable consacré donc à la Haute-Garonne, mais de fait, c'est aussi le premier guide consacré à la Haute-Garonne, parce qu'en fait, il n'y a pas, ou vraiment très très de façon très locale, il n'y a pas de guide consacré à des départements. Or, le département, je pense qu'on a tous pu le constater, avec les nouveaux territoires qui sont apparus ces dernières années, c'est-à-dire les métropoles, c'est-à-dire les nouvelles régions, on est tous un petit peu perdus quand même pour appréhender cette nouvelle géographie et aussi cette nouvelle géographie administrative. Donc finalement, le département reste une géographie que tout le monde a assimilée. Enfin, ça fait plus de 2 siècles maintenant, donc c'était bien avant notre naissance à tous, et donc on a bien cette idée d'un territoire départemental. Alors après, bon, la Haute-Garonne, mais comme d'autres départements, hein, la Haute-Garonne a vraiment des singularités géographiques, hein, ça. Un département presque tout en long, hein, qui va de la montagne à la plaine, structuré par la Garonne, aussi en partie par le canal du Midi. Et là-dedans, bon, on a évalué qu'il y avait 5 zones, 5 parties à peu près. Hein, et donc chacune de ces parties est introduite. Je décris un petit peu le contenu du guide. Hein. Chaque partie est introduite par un texte général, assez culturel en fait, pour que les visiteurs aient le maximum d'informations quand ils se déplacent sur le lieu de leur séjour. Donc il y a une partie culturelle qui présente le territoire sous des aspects paysagers, géographiques, environnementaux, mais aussi historiques, et bien évidemment culturel, patrimonial, qu'il s'agisse de patrimoine bâti ou de patrimoine immatériel, parce que tout est important. Chaque zone est introduite par cette partie-là, d'une douzaine, une quinzaine de pages, et ensuite c'est la partie répertoire, classée par les dormir, manger, découvrir. Et donc il y a en tout à peu près un peu plus de 500 adresses, dont 140 environ qui sont développées, décrites, accompagné d'un QR code qui permet en fait d'ajouter au papier un supplément d'immédiateté en quelque sorte, c'est-à-dire que le visiteur, même avec son guide papier à la main, peut avec son smartphone se connecter immédiatement sur un site et voir quelle est l'offre du jour éventuellement. Voilà. C'est un petit peu dans les grandes lignes la description.
Donc c'est un guide qui s'adresse à la fois aux Garonnaises et aux Garonnais, notamment celles et ceux qui viennent d'arriver dans le département, mais pas que, mais aussi aux touristes qui arrivent en Haute-Garonne.
Voilà, en fait il s'adresse à tous les publics. On a fait en sorte que le guide soit le moins cher possible. Donc il est à 8,90€, ce qui est quand même assez modique pour un guide de cette qualité.
Oui, puisque les photos sont en plus en couleur.
Et oui, et de cette abondance d'informations. Et il s'adresse à tout le monde parce que on sait maintenant que, parce qu'on a bien travaillé le sujet, on sait maintenant que les touristes en Haute-Garonne sont pour moitié des touristes extérieurs au département et l'autre moitié des touristes intérieurs au département. Et ça, je crois que ça vient aussi du fait, il y a deux choses, c'est que d'une part, la configuration des lieux, si je puis dire, est quand même très différente et il y a quand même une assez grande distance entre le nord du département et le sud du département. Et puis il y a aussi des gens qui sont classés comme Haut-Garonnais parce qu'ils habitent ici, mais ils sont peut-être là depuis un an ou 2 ans ou 3 ans parce qu'on sait que le département attire. Alors le chiffre est toujours un petit peu imprécis, mais enfin entre 15 et 20 000 personnes nouvelles chaque année. Donc ces gens-là ont envie évidemment de découvrir le lieu où ils sont venus habiter.
Alors Maxence Fabiani. Donc je rappelle que tu es le directeur des nouvelles éditions Loubatière, et donc avec une publication toute récente du guide orange du tourisme durable en Haute-Garonne.
C'est ça, il est en librairie depuis le 29 juin.
Et donc, je suppose qu'il doit être à l'office de tourisme aussi.
Oui, 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 il est à l'office de tourisme, dans les différents offices de tourisme. Enfin, on le trouve normalement partout. Et il existe aussi en version numérique. Donc, on peut sur les sites spécialisés, donc les librairies en ligne, qu'elles soient, je dirais, des librairies de chaîne ou des librairies indépendantes, il est en vente en version numérique, voilà, pour les tablettes ou les smartphones.
Mais c'est plus sympa le papier, parce qu'il y a un autre rapport avec le papier. Et puis, aller chez les vrais libraires aussi, l'acheter, c'est important.
Nous sommes absolument d'accord, Christian.
Voilà. Et donc, je suppose que tu vas le présenter encore dans d'autres lieux, mais nous allons en parler dans quelques...
Oui. Merci beaucoup. Bonne journée.
Au revoir.
Voilà donc Gilles-Éric Serralini, comme je le disais, avec son équipe qui a démontré la toxicité des OGM et du Roundup, entre autres. Alors, justement, contre les OGM et le Roundup, il y a une bonne adresse là que j'ai trouvé dans le guide orange du tourisme durable Haute-Garonne. Donc je rappelle que nous avons dans le studio Maxence Fabiani, qui est le directeur des nouvelles éditions Loubatière, puisque j'ai vu qu'il y avait au niveau de chambre d'hôte et table d'hôte un couple d'agriculteurs biologiques qui depuis 1993 en maraîchage volaille laine dans le piémont pyrénéen à 630 mètres d'altitude vous accueillera en camping à la ferme, chambre d'hôte, gîte d'étape ou gîte famille groupe. Donc ça, c'est chambre et table d'hôte, gîte camping à la ferme au hameau de Vigneault. Donc le téléphone 05 61 79 66 46, 05 61 79 66 46. Donc ça fait partie vraiment du développement durable.
Tout à fait, les adresses comme ça, il y en a beaucoup dans ce guide. Je voulais, en écoutant Gilles-Éric Serralini, bon d'abord, je dois dire que vraiment son travail est exemplaire et on peut imaginer en l'entendant la force et la détermination au quotidien qu'il faut avoir pour aller au bout de ses idées. Et je me disais que justement les personnes qui sont mentionnées dans ce guide, dont les activités sont décrites, ont toutes le souci non seulement du bien-être des gens qu'ils accueillent, mais du leur évidemment. Donc ce sont tous des gens engagés. Enfin, on a veillé à ce que... Alors après, c'est peut-être à des degrés divers, et tout le monde n'est pas forcément militant, prêt à aller attaquer Monsanto au tribunal. Évidemment, ça c'est un autre registre, c'est un autre cran, un autre niveau. Mais ce sont des gens qui pratiquent. D'ailleurs, on a mis au début, hein, au début du guide, tous les labels auxquels ces gens se réfèrent, parce qu'on n'a pas voulu créer un nouveau label. On s'est dit qu'il y en avait suffisamment comme ça et qui sont ensuite mentionnés à chaque adresse. Voilà, un tel se réfère à telle ou telle adresse, à tel ou tel label, pardon. Mais ce qui est important, c'est que on leur a vraiment tous demandé une forme d'engagement par écrit. Non pas d'engagement, parce que c'est pas à nous de leur demander de s'engager. En tout cas, comme une vérification qu'ils étaient bien engagés dans des démarches de bonnes pratiques. Bon, ça fait un peu sentencieux, mais tant pis. C'est-à-dire des gens qui sont vraiment des adeptes du bien manger. Évidemment, avec les OGM, on ne sait jamais ce qui peut traverser les champs. Mais je peux t'assurer que là-dedans, il y a beaucoup d'adresses de gens qui sont vraiment des adeptes des produits naturels, des circuits courts, qui ne sont pas seulement des... qu'il ne faut pas non seulement regarder sous l'aspect technique ou technologique, mais aussi sous l'aspect humain, parce que je crois que ton invité précédent l'a bien dit. Enfin, ce sont vraiment du poison qu'on nous instille à peu près chaque jour, et même sans qu'on s'en rende trop compte, parce qu'il faut faire les expériences qu'il a faites pour et avoir les cobayes entre guillemets qu'il avait pour véritablement distinguer les goûts de ces, enfin je veux dire, c'était très étonnant hein, ce qu'il racontait sur les goûts
concernant le vin,
sur les goûts notamment concernant
le goût
des
vins, enfin,
c'est vraiment voilà, je crois qu'on va faire tous un peu plus attention à ce qu'on va boire et manger. Enfin voilà, ce sont pas seulement des initiatives locales, c'est aussi des gens qui ont vraiment le souci de proposer à leurs visiteurs le meilleur de ce qu'on trouve dans la région où ils sont installés.
Alors, est-ce que personnellement, tu as eu un coup de cœur ou plusieurs en préparant et en écrivant
plein,
ces guides?
Plein. Alors, plein, c'est difficile d'en extraire un ou deux, parce que depuis là quelques jours, je réponds dans les interviews, je cite toujours les deux mêmes.
D'accord.
Parce que c'est ce qui m'avait semblé le plus surprenant. Mmh. Mais il n'y a pas que ça. Je vais citer des gens à Toulouse dont je dois dire j'ignorais l'existence. Enfin bon, il y a beaucoup, je dois dire que dans ce guide, il y a pourtant, bon, je pense circuler un peu, être curieux, mais bon, il y a quand même un certain nombre de choses ou de lieux ou de personnes dont je n'avais encore jamais entendu parler. Geeks and Guide, par exemple, ce sont des gens qui organisent des... Alors je vais rechercher la page où ils sont. Geeks and Guide, ils organisent des visites. Voilà, je suis sur la page, c'est la page 103. Ils organisent des visites dans Toulouse. Alors ils sont habillés, ils sont déguisés. Bon, ils ont par exemple un guide qui est habillé, pour ne pas dire déguisé, en inquisiteur, et qui organise les visites sur Toulouse au Moyen-Âge, enfin à l'époque de l'Inquisition. Enfin voilà, ce sont des gens qui proposent de nouveaux regards finalement ludique dans leur approche, mais très sérieux sur le fond historique. Simplement, bon, ça change complètement. D'ailleurs, la photo qui illustre, on voit pas bien à la radio, mais la photo qui illustre montre bien un petit peu quel est le genre de visite qu'ils organisent. Bon, juste par exemple, visite entièrement personnalisable, évidemment, en durée, contenu, entrecoupé d'intermèdes ludiques sous forme d'un jeu du loup-garou, par exemple, revisité à la mode médiévale. Enfin voilà, ce sont des jeunes très... moi, ça me donne vraiment envie d'aller voir à quoi ça ressemble. Il y a... Alors, ça, c'est à Toulouse, mais bon, ils peuvent organiser des visites un petit peu partout autour. Il y a aussi, dans le département, des gens qui organisent des randonnées. La randonnée, c'est tout bête. Une randonnée avec aujourd'hui avec un GPS ou une carte, c'est tout bête. Sauf que ils font ça avec des cartes du 17e, du 18e siècle, à travers des sentiers qui ont, bon, forcément un peu changé, hein, dans leur, peut-être pas dans leur tracé, mais en tout cas dans leur environnement. Ou bien une maison d'hôte dans le quartier Saint-Michel, la maison d'hôte qui organise régulièrement des brunchs, parce que bon, la personne qui tient cette maison, Olivier Naude, puisque c'est son nom, est un excellent cuisinier et absolument adepte de produits locaux de très haute qualité. Voilà, donc c'est vraiment c'est un peu plus riche, ça va plus au-delà. Chacune de ces adresses, chacun de ces noms, chacun de ces lieux permet d'aller découvrir au-delà.
Et après, il y a peut-être... C'est une petite commune, mais qui est très dynamique aussi, et qui a un marché, alors, qui est super le dimanche matin, c'est Montbrun-Bocage.
Oui, je ne pouvais pas les oublier, parce que c'est notre marché du dimanche. Donc voilà, on ne pouvait pas les oublier, mais c'est un marché étonnant, formidable. L'ambiance est vraiment... presque vintage. Enfin, c'est assez bizarre, mais c'est pas que les gens s'habillent comme ça. Certains disent que certaines personnes s'habillent comme ça pour aller au marché, s'habillent très années 70, mais pour les connaître bien maintenant depuis 10 ans, non, je sais que beaucoup vivent vraiment comme ça. Le lieu est magnifique, c'est un très beau village, très beau village. Église splendide, du 15e, je crois. Une halle très belle aussi, puis alors beaucoup, beaucoup de très, très bons producteurs bio. Avec non, c'est un véritable.
Il y a une ambiance.
Il y a une ambiance. C'est vraiment un cas d'école parce que c'est un village très loin. C'est sans doute le dernier village du département, hein, juste avant l'Ariège. D'ailleurs, on passe un peu par l'Ariège, par Domazan pour y aller, ou par Sainte-Croix de l'autre côté. Ce sont les néos qui ont fait revivre ce village et qui ont fait revivre les activités du village. Ce sont les néos qui ont une... Enfin, alors, les néos, ce sont des personnes, mais qui sont là depuis... Alors, qui sont arrivés il y a une quarantaine d'années. Maintenant, c'est plutôt leurs enfants. Je pense au boulanger. Maintenant, c'est la deuxième génération, déjà, de néos, si je puis dire. Mais enfin, je pense qu'il est né, lui, à Montmoin. Donc, lui, c'est plus véritablement un néo. Et donc, c'est une association qui fait vivre tout ça, en fait, qui organise tout ça. Et ça attire un monde... de plus en plus important chaque dimanche. Il y a aussi une buvette associative qui est un lieu formidable au bord de la petite rivière et qui permet de récolter les sous qui permettent ensuite de pouvoir proposer des animations, des activités dans le village tout au long de l'année. Non, c'est une... Et puis c'est un des plus beaux villages, je crois, aussi du département.
Tout à fait. Et donc, je rappelle donc Maxence Fabiani, donc tu es directeur des nouvelles éditions Loubatière, et le guide s'appelle le guide Orange du tourisme durable en Haute-Garonne. Mais il y a d'autres ouvrages aussi que publient les nouvelles éditions Loubatière, qui va sortir prochainement.
Alors, il y en a un autre qui vient juste de sortir, en fait, en même temps que le guide d'Orange, mais très, très, très différent, qui est le nouveau titre d'une collection qui s'appelle Métiers, Histoire et Patrimoine, et qui, cette fois-ci, est consacré au métier de l'aviation depuis l'origine, bon, pas très ancienne, comme on sait, depuis l'origine jusqu'à nos jours, et même sans doute jusqu'à demain et après-demain. C'est une équipe de 4 personnes sous la houlette du professeur Jean-Marc Olivier, qui est professeur à Jean Jaurès et qui est un spécialiste de l'histoire de l'aviation. Voilà, ça vient de sortir. Et puis on travaille, comme toujours, sur plusieurs livres en même temps pour la fin de l'année 2017 et puis l'année 2018.
Alors, je sais que ton temps est compté, donc tu as encore quelques minutes, mais après tu as plein de choses à faire. Qu'est-ce que tu as envie de dire encore aux auditrices et aux auditeurs de Radio Occitanie et de l'émission Traversée ?
Alors, première chose, c'est toujours un plaisir de venir parler dans le micro à Radio Occitanie. Parce que c'est pas la première fois que je viens. Je crois même que c'est la première radio qui m'a invité il y a très longtemps, quelque chose comme 25 ans. Oui. Donc ça commence à dater. J'ai presque mes habitudes, pourtant je ne viens pas si souvent, donc bref. Ne jouons pas au lèche-botte. Moi, je suis très sensible à l'existence de toutes ces radios associatives qui irriguent et qui rapportent les initiatives de tous ordres, et pas seulement culturelles, comme on l'a vu tout à l'heure avec ton invité Serralini. Je crois que je vais juste répéter ce que tu as dit tout à l'heure. Lisez et allez dans les librairies indépendantes ou à défaut dans les bibliothèques, mais lisez.
Et est-ce que tu vas le présenter justement ce guide très prochainement dans une librairie, dans un lieu ?
Alors ça n'est pas encore prévu parce qu'on est en été. L'été c'est un moment assez creux de ce point de vue-là. Et je sais pas, non, je pense qu'on peut, après à la rentrée ce sera un peu tard parce que le livre sera paru 2 ou 3 mois auparavant. Mais je pense que quand la collection sera un tout petit peu plus étoffée, qu'elle aura 4-5 titres, je pense qu'on fera une présentation un peu plus... Donc ce sera sûrement en cours l'année 2018, on pourra faire une présentation un peu plus développée, je dirais, de cette collection. Merci. Je peux juste
ajouter vas-y. J'oubliais
quelque chose de très important, c'est que nous travaillons aussi. Donc ce guide, je dis, il est papier, mais il existe aussi en version numérique. Mais nous travaillons aussi au développement d'une application qui, lorsqu'elle sera prête, et ça c'est un petit travail, lorsqu'elle sera prête, sera gratuite pour les gens qui auront fait l'acquisition du guide, mais qui augmentera, si je puis dire, les capacités du guide et les possibilités offertes aux visiteurs, aux voyageurs, qui pourront non seulement se géolocaliser, mais ça, n'importe quel téléphone le fait, mais surtout avoir vraiment le plus possible d'informations renouvelées, actualisées de la part des opérateurs qui sont présents dans le guide. Voilà, mais ça, on ne sait pas encore la date de sortie de l'appli parce que c'est quand même un travail dont nous n'avons pas trop l'habitude en fait. Voilà.
D'accord, merci Maxence.
Je tenais à ajouter.
Camille d'être venu.
Je te remercie de ton invitation, Christian.
Dans les studios de Radio Occitanie, je rappelle donc un ouvrage très récent, Le Guide Orange du tourisme durable en Haute-Garonne, donc aux nouvelles éditions Loubatière.